Que toute gloire soit rendue à notre Seigneur qui m'a permis de préparer ce message à temps dans le contexte de ce mois de février qui a été très chargé et mouvementé, particulièrement cette dernière semaine. Donc, la dernière fois que j'ai eu le privilège de vous apporter un message, nous sommes arrêtés sur le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le message était divisé en deux parties. La première, la crainte de l'Éternel est le commencement de la vie. Et la deuxième, la crainte de l'Éternel est le commencement de la liberté, de la connaissance et de la sagesse. Ainsi, très brièvement, pour vous remettre dans le bain, nous avons vu que l'Éternel, qui a toujours existé, est lui-même auteur de la vie et que par pure grâce, il a délivré Israël de l'esclavage et a unilatéralement initié une relation avec eux pour se faire leur Dieu. C'est le fondement de l'exclusivité absolue que l'Éternel exige de son peuple. L'Éternel est le seul vrai Dieu, il est un. Sa loi parole est une, unie et cohérente. Sa loi est immuable et exige une obéissance morale et éthique entière et sans réserve. La rébellion d'Adam a donné la loi de l'homme qui, sans l'intervention de l'Esprit-Saint, triomphe dans le cœur de tout homme. Et la manifestation la plus musclée de la loi de l'homme est la tyrannie par législation des gouvernements à travers le monde. Ceux qui haïssent Dieu et sa loi aiment la mort, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la vie. Ce qui pointe vers la libération historique aux proportions planétaires et éternelles de Christ Jésus, Dieu s'étant fait homme, obéissant parfaitement à la loi et portant sa condamnation, afin que l'Éternel grave, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de nos cœurs, tous ses préceptes et commandements. La crainte de l'Éternel, Christ Jésus, est donc le commencement de la liberté, de la connaissance et de la sagesse, puisque, rappelons-le nous, en théologie, Christ est la plénitude de la divinité et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En philosophie et en linguistique, Christ est le Verbe, la parole de Dieu, dès le commencement. En anthropologie, Christ est le dernier Adam. En éthique, Christ est la lumière et le chemin. En biologie, Christ est la vie. En psychologie, Christ est le sauveur. En sociologie, Christ est le Fils. En droit et en justice, Christ est le législateur et la vérité. En sciences politiques, Christ est le roi des rois et seigneur des seigneurs. En sciences économiques, Christ est le propriétaire de toutes choses. En histoire et en géographie, Christ est l'alpha et l'oméga. Bref, en éducation et en toutes choses, Christ est le seul maître. Un seul Dieu, un seul fondement, le vrai Dieu et vrai homme, Christ Jésus. Tout cela nous conduit donc aujourd'hui à méditer sur le deuxième commandement. Lisons les versets 4 à 6 du chapitre 20 dans le livre de l'Exode. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le zèle de l'Éternel, le seul maître de cérémonie ». D'entrée de scène, il y a d'intéressantes observations à faire au sujet du second commandement. D'abord, on y voit pour la première fois dans le Décalogue des interdictions suivies d'une mention de sanctions négatives. Deuxièmement, cette sanction négative est aussi suivie d'une sanction positive. Troisièmement, c'est le seul commandement du Décalogue dans lequel on retrouve un appariement explicite de sanctions négatives et positives. Mais en plus, il y a une curieuse et très frappante asymétrie, inégalité, un déséquilibre marqué entre la sanction négative et la sanction positive. Je vous partagerai un peu plus tard ce que je soupçonne être la raison de cette particularité. Entrons maintenant dans le vif du commandement lui-même. Comme on vient de le mentionner en termes de structure, le commandement est séparé en deux grandes parties, soit les interdictions et les sanctions. C'est le même patron qu'on retrouve pour les cinq premiers commandements lorsqu'on étudie le Décalogue. Dieu prononce une interdiction et l'accompagne d'une sanction explicitement négative, positive ou les deux, dans le cas de notre commandement d'aujourd'hui. Le patron interdiction-sanction doit essentiellement être compris comme étant un patron interdiction-explication ou encore interdiction-raison. Par exemple, comme je vous l'ai vulgarisé pour le premier commandement en décembre dernier, Dieu affirme « Puisque je suis l'Éternel, puisque je suis ton Dieu, puisque je t'ai fait sortir d'Égypte, puisque je t'ai fait sortir de l'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Autrement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis l'Éternel, car je t'ai fait sortir d'Égypte, car je t'ai fait sortir de l'esclavage. Il n'en est pas ainsi des cinq derniers commandements. Dieu ne prononce que des interdictions sans mentionner de sanctions. En ce qui a trait aux cinq derniers commandements. Donc les quatre premiers commandements et le cinquième indirectement, quoique ça puisse être sujet à débat, reflète la dimension verticale entre Dieu et l'homme, les parents étant les représentants de l'autorité de Dieu auprès de leurs enfants, dans le cas du cinquième commandement. Et les cinq derniers commandements reflètent la dimension horizontale avec notre prochain. Ainsi, selon l'interprétation de Dieu lui-même dans les Écritures, les commandements horizontaux, sans sanction explicite dans le Décalogue, tirent leur fondement et ont pour explication ou pour raison les commandements verticaux qui décrivent nos devoirs envers Dieu. Donc, en termes de sanctions explicites, on peut dire que les sanctions négatives et positives des cinq derniers commandements sont parsemées à travers celles mentionnées dans les cinq premiers. Revenons maintenant plus spécifiquement au deuxième commandement. Avant que ne soient prononcées les sanctions, la section traitant des interdictions est séparée en deux parties. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque, dis-je, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, au verset 4. Deuxième partie, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, au verset 5a. Au verset 4, il est question de représentation de Dieu, ou d'une divinité quelconque. L'Éternel a déjà établi qu'Israël n'aurait pas d'autre Dieu devant sa face de manière générale dans le tout premier commandement. Mais ici, il leur interdit spécifiquement et strictement toute forme d'image qui serait produite. À quelle fin ? Aux fins d'adoration et de service, précise le verset 5a. Lisons le verset 23 du chapitre 20 de l'Exode qui éclaire la compréhension du deuxième commandement. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Au chapitre 19, en préparation de la rencontre de l'Éternel avec le peuple, pour traiter l'alliance sur le mont Sinaï, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Un peu plus loin, verset 10, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » L'Éternel précise que c'est par lapidation ou par des flèches que cette punition devait être infligée. Et lorsqu'on lit et médite davantage sur cela, on comprend que l'Éternel dit en d'autres mots « Attention, Si vous voulez punir le rebelle qui dépasse la ligne du périmètre que j'ai établi comme limite autour de la montagne, prenez garde de ne pas dépasser la limite en aucune circonstance. Donc on comprend que les pierres ou les flèches sont des moyens d'exécution à distance. L'Éternel est toujours celui qui initie en ce qui a trait à l'homme. C'est lui qui établit alliance avec l'homme. C'est lui qui dicte les termes d'interaction et déjà à travers Moïse, l'Éternel enseigne clairement le besoin d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Seuls Moïse et Aaron avaient le droit de monter sur la montagne, pas le peuple, ni même les sacrificateurs sanctifiés. Humainement et rationnellement parlant, il est tout à fait compréhensible que l'être humain essaie de faire des représentations de Dieu pour l'adorer. Après tout, l'être humain sait bien que la représentation n'est pas Dieu lui-même. C'est symbolique, c'est logique. Mais Dieu est esprit, il est invisible, il est saint et il a déjà créé l'homme à son image. L'imagination de l'homme est polluée par le péché. Le désir de l'homme n'est pas d'adorer Dieu. Il veut lui-même être un Dieu. Donc il imagine un faux Dieu à sa propre image qu'il va tenter de manipuler et contrôler pour assouvir son propre désir de pouvoir. La soif du pouvoir de l'homme est ce qui se trouve au cœur de la magie. C'est quoi la magie? Essentiellement, c'est de tenter de manipuler, de contrôler des éléments de la création de Dieu, à nos propres fins. Il peut s'agir d'une quelconque combinaison des éléments suivants: les circonstances, l'environnement, que ce soit la nature, le climat, la fertilité agricole, ou les êtres humains, que ce soit des amis, de la famille, des connaissances, des ennemis, la population d'un pays ou mondial, et même notre propre longévité. Pensons au transhumanisme. Plusieurs moyens sont déployés pour tenter de contrôler la création. Anciennement, l'homme a beaucoup fait appel à l'occultisme. Nous pouvons penser aux magiciens de Pharaon qui ont reproduit certains des miracles de Moïse. De nos jours, c'est bien plus déguisé, c'est beaucoup plus subtil dans notre contexte matérialiste et athée. Bien que l'occultisme soit toujours présent et connaisse même une certaine résurgence, la science, la psychologie et le développement de la technologie guidée par la religion de l'humanisme représentent des aspirations et des croyances qui se rapportent essentiellement à la magie. Dans le moins pire des cas, en faisant une représentation ou une idole du vrai Dieu ou d'un faux Dieu, l'homme porte atteinte à sa propre dignité en adorant un élément de la création qui n'a aucun pouvoir divin et qui est inférieur à l'homme. L'homme qui, lui, est à l'image de Dieu, la couronne de la création. Au commencement, l'homme lui-même a été créé pour être la représentation réelle et vivante de Dieu sur terre. Dans le pire des cas, l'homme adore une entité démoniaque qui se cache derrière son idole, se faisant manipuler et mener à la perdition par Satan. Dieu est zélé pour sa gloire et son adoration. La parole est très claire. L'Éternel dicte les termes selon lesquels le peuple peut s'approcher de lui. Les enfants d'Israël devaient être rituellement purs, sanctifiés. C'est l'Éternel qui est le seul maître de cérémonie. C'est lui qui établit les conditions pour que l'homme se présente devant lui pour l'adorer. D'où la notion du principe régulateur du culte d'adoration qui est si important pour nous à la Trinité et dans toutes les églises qui comprennent cet enseignement de la parole. Jésus s'est très clairement prononcé au sujet de l'adoration de Dieu en Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Encore en ce qui a trait à la notion du principe régulateur, regardons Exode 20, versets 23 à 25, qui nous en dit plus sur le second commandement. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. L'Éternel voulait, par rapport aux autels, que les enfants d'Israël utilisent les matériaux bruts de sa création, la terre ou de la pierre, mais non taillée. Pourquoi ? Parce qu'il la profanerait, il la souillerait, il la polluerait. Ça revient à ce que je vous expliquais tantôt. L'homme étant déchu, toutes ses facultés sont souillées par le péché. Et donc même sa pensée et son imagination. Et si l'Éternel leur permettait de tailler la pierre, ils y attribueraient dans leur pensée des propriétés idolâtres, en violation du second commandement. En d'autres mots, ils succomberaient nécessairement à la tentation d'attribuer des caractéristiques divines ou sacrées de manière intrinsèque à la pierre taillée, comme si la pierre taillée en elle-même pouvait leur donner un accès à Dieu, ou attirer sa faveur, ou encore que la puissance de Dieu pouvait être localisée dans la pierre taillée. Un peu comme les concepts païens de talisman, d'amulette, de porte-bonheur, de crucifix ou eau bénite chez les catholiques dans le cadre des exorcismes, ou quelconque objet fétiche de n'importe quelle religion. C'est la pensée idolâtre de l'homme qui engendre ce qu'on appelle des superstitions. D'ailleurs, ça me fait penser à un problème qui affecte même les chrétiens par rapport à ce genre de pensée, en ce qui a trait à cette pensée, cette tendance à aller chercher des formules, un petit peu des recettes, de répéter certaines choses. Et puis, parfois, nous allons tenter d'ancrer, de justifier les pratiques, certaines croyances que nous développons nous-mêmes selon nos propres réflexions dans la parole. Et je pense que, je suis convaincu en fait que le Seigneur, en fait, il nous le dit dans sa parole, que tout ce qui est inscrit pour notre instruction. Et donc, on voit même cet exemple avec Moïse. Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit moment et qu'on aille dans la parole pour comparer deux exemples par rapport à Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher. Nous avons le premier récit, le récit de ce premier épisode dans Exode 17, dans les premiers versets du chapitre. Donc, on voit que le peuple, brièvement, je vous résume, le peuple était stressé parce qu'ils n'avaient pas à boire. Et donc ils ont dit, le texte dit au verset 2, « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Et donc on lit plus loin que l'Éternel, que Moïse s'en va auprès de l'Éternel après tous les murmures du peuple. Et l'Éternel le instruit à Moïse, il lui dit, « Voici, je me tiendrai devant toi, au verset 6, sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ensuite, nous avons un autre épisode dans le livre des Nombres, au chapitre 20. Un épisode similaire, où Israël, encore une fois, n'a pas d'eau à boire et applique de la pression sur Moïse. Donc, on voit, lorsqu'on lit plus loin, au verset 6 à 8, ça nous dit, au verset 6, « Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Verset 9, « Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Donc pour revenir à ce que je tentais de vous expliquer, on voit une punition sévère de l'Éternel envers Moïse. Pourquoi, à nos yeux, lorsqu'on ne médite pas sur le texte, ça peut nous sembler fort sévère? Ça a coûté même à Moïse l'opportunité, le privilège de voir la terre promise. Pourtant, c'est pas une si grosse offense que ça. Pourquoi l'Éternel a réagi ainsi? Pourquoi l'a-t-il puni si sévèrement? Parce qu'au fond du cœur de Moïse, il a été infecté par un raisonnement idolâtre. Il s'est dit que puisque l'Éternel a opéré des miracles, il a délivré Israël avec cette verge qu'il lui a ordonnée, avec laquelle il lui a ordonné de faire les miracles, il a commencé à penser comme un païen, comme si la verge en elle-même, non seulement la verge en elle-même avait un pouvoir, mais que ça fonctionne comme des sorts, comme des recettes, une formule, je frappe le bâton, comme j'ai frappé le bâton dans le premier épisode, l'eau est sortie, je vais frapper le bâton encore, c'est comme ça que je vais attirer la puissance de Dieu, l'action pour que le rocher produise de l'eau. Mais l'Éternel lui avait clairement dit, parle au rocher. Et lui, il n'a pas seulement frappé le rocher, comme la première fois, il l'a frappé deux fois dans la colère. Et donc, on voit donc, que même les chrétiens, parfois, tombent captifs à ce genre de raisonnement. On va se dire, mais Moïse avait un bâton, et moi, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir quelque chose. Regardons les exemples dans la parole. Et je trouve ça, le Seigneur est vraiment dans sa sagesse infinie, il nous montre même Jésus. Parfois, il guérissait des aveugles avec de la salive, de la boue, mais Jésus n'appliquait pas une formule. La manière dont il guérissait était différente à chaque fois. Justement parce que ce que ça nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas une formule avec Dieu. La puissance est en Dieu lui-même. Et donc, on doit prier à Dieu, on doit invoquer sa grâce et ne pas tomber captif à ce genre de raisonnement. On va essayer, par exemple, de consacrer une eau bénite et lorsqu'on a un problème, on va utiliser cette eau, on va utiliser cette huile. On voit même dans l'épître de Jacques que la parole nous dit, lorsque quelqu'un est malade, appelez les anciens, oignez-le, priez pour que les anciens prient pour lui et qu'on l'oigne d'huile. Mais ce n'est pas une huile particulière, ce n'est pas une huile que on voit quelque part dans la parole, Dieu a dit, mettez une huile à part qui est spéciale, qui a des pouvoirs. Non, il s'agit d'obéir à l'Éternel. Dans chaque situation, selon sa souveraineté, il va décider de la manière dont il va opérer. Et donc nous devons être très prudents, même en tant que chrétiens, de ne pas tomber dans ce genre de raisonnement idolâtre, d'essayer de chercher des formules, d'attribuer la puissance de Dieu à des objets. Et on voit même l'exemple du serpent, le serpent de bronze qui a été élevé dans la parole. Le pouvoir n'était pas en le serpent lui-même, mais c'est que l'Éternel a décidé qu'en ce signe, il allait opérer un miracle. Et lui, il savait pourquoi il avait fait ceci. Et on voit que Jésus ramène cette symbolique plus tard dans le Nouveau Testament également. Donc c'est très important pour nous de faire attention à ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le moins pire des cas, lorsqu'on tente de faire ce genre d'appliquer ce genre de raisonnement idolâtre, il n'y a rien du tout qui va se passer. Mais dans le pire des cas, on peut attirer ou invoquer des entités démoniaques également. Et le Seigneur, par sa grâce, on voit, il a fait grâce à Moïse. Moïse a désobéi. Malgré cela, il a fait sortir de l'eau du rocher. Et des fois, nous, essayant de lire la providence de Dieu, on va se dire, mais si j'utilise ma petite formule, mon petit truc, ça fonctionne, ben ça veut dire que Dieu, il m'approuve, là, il me donne sa validation. Mais non. Donc, il faut que nous soyons très, très prudents. Il faut qu'on demande au Seigneur de nous donner le discernement afin que nous puissions nous garder de ces choses, de développer ce genre de pensée idolâtre. Donc, voilà. sur cette parenthèse. Donc, pour continuer, ce n'est pas pour rien que le commandement précise « ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre ». L'imagination de l'homme est sans limite en ce qui a trait à inventer des manières de déifier la création. Malgré que Dieu ait fait connaître à tout homme qu'il existe, qu'il est parfait, invisible, tout-puissant et éternel, d'où la raison pour laquelle tous sont coupables devant Dieu selon Romains 1, qui nous dit « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Des choses qui sont en haut dans les cieux, les oiseaux, qui sont en bas sur la terre, l'homme corruptible, les quadrupèdes, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, les reptiles, incluant ceux qui sont des amphibiens et qui vont dans l'eau, mais aussi tout et n'importe quoi d'inanimé dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. D'ailleurs, vous êtes probablement tous familiers avec ce que les Israélites ont fait lorsqu'ils ont vu que Moïse tardait à descendre de la montagne en Exode 32. Ils ont réussi à convaincre Aaron de leur faire une représentation d'un Dieu qu'ils pouvaient voir. Aaron a succombé à la pression du groupe en leur faisant un veau d'or. Et ils ont associé l'Éternel et sa délivrance à ce veau d'or qu'ils ont célébré et adoré. Donc vous voyez, l'Éternel nous montre à travers eux comment nos cœurs sont impatients et prompts à se fabriquer des idoles lorsque les choses n'avancent pas selon notre propre temps. Quelle arrogance! En Exode 33, verset 20, l'Éternel dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc même Moïse, qui représentait un type de Christ, en tant que médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël, ne pouvait voir Dieu. Et avait lui aussi besoin du parfait médiateur, le grand prophète, dont la venue future, Moïse lui-même, allait annoncer en Deutéronome 18, 15 à 19. Un prophète est un représentant de Dieu devant les hommes. Et qui serait un meilleur représentant que celui dont il est dit en Jean 1, 18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Pourquoi donc ? Jean nous le révèle dans le prologue. Il nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. » Jésus-Christ est le Fils unique, celui qui a vu Dieu le Père et le seul qui peut réellement nous le faire connaître, nous le révéler, et c'est ce qu'il a fait. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit le verset précédent. En Jean 1, Jean 1, verset 17. Autrement dit, alors qu'à Israël, Dieu a simplement donné la loi à travers Moïse, sans la puissance nécessaire pour y obéir, dans la nouvelle alliance, sa grâce est venue à son Église, en la personne de Jésus-Christ, qui est la vérité incarnée, confirmant et en confirmé la loi, ayant accompli la loi, ayant souffert notre peine sous la loi, et nous ayant donné la puissance surnaturelle de garder la loi. Comment ? En marchant par l'Esprit. Par la direction de l'Esprit qui nous pointe continuellement vers la grâce et la vérité qui sont venues en Christ Jésus, qui révèle Dieu le Père dans les Saintes Écritures, notre intelligence peut continuellement être renouvelée, de manière à ce que nous soyons gardés, toujours plus éloignés des penchants, des pensées et des inventions qui nous poussent à ériger des idoles. J'aimerais vous partager une percutante citation d'un prolifique auteur chrétien que j'ai trouvée et traduite pour vous au sujet de l'idolâtrie. Faire une image taillée signifie de participer à la création d'un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial est en opposition à l'ordre mondial de Dieu. Un Dieu différent est élevé à la position de souveraineté. À l'époque de l'Ancien Testament, cela voulait dire qu'un démon devenait la source de santé et de prospérité. Dans la civilisation moderne, grâce au progrès du christianisme dans l'histoire de l'humanité, la plupart des gens n'adorent pas explicitement des démons. Ils attribuent plutôt la souveraineté à des forces impersonnelles de l'histoire, dans le marxisme, des forces de la pensée inconsciente, dans le freudisme, à l'esprit du Volk, dans le nazisme, à des forces impersonnelles de la nature, dans l'évolution darwiniste. L'homme moderne tente de devenir ce qu'a prophétisé C.S. Lewis, le magicien matérialiste. Ultimement, l'homme est l'agent souverain et tente d'exercer sa souveraineté par différents moyens, par la révolte du prolétariat, par la planification économique, par la planification scientifique, par l'éducation publique obligatoire, par la manipulation génétique, par la psychanalyse, par des techniques de conscience supérieure dans les croyances New Age, etc., etc. Ce même auteur explique qu'essentiellement, la violation de la loi de Dieu équivaut à adorer Satan. Adorer l'homme et l'ouvrage de ses mains, sous quelque forme que ce soit, équivaut à adorer Satan. Au résumé, l'homme qui fait des idoles et qui adore des idoles est un adorateur de Satan. Donc même l'humanisme séculier de notre époque, qui nie l'existence de toute réalité surnaturelle, est une forme de satanisme. Et l'adoration d'un individu va toujours de pair avec son service. Si tu adores Satan, tu es au service de Satan. Attardons-nous à présent sur la deuxième partie du second commandement. La sanction négative et positive se rapportant aux interdictions. À partir du verset 5b, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Comme je l'ai mentionné plus tôt, les sanctions qui accompagnent le commandement amènent à comprendre pourquoi les interdictions sont données par Dieu. Quelles en sont les raisons? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux? Ce n'est pas une mauvaise chose d'être jaloux? Pas toujours, non? Il existe de la jalousie légitime. Prenons quelques exemples humains avant de comprendre ce droit divin. Si un homme marié développe une attirance perceptible et manifestée, exprimée pour une autre femme que son épouse, son épouse peut légitimement être jalouse et doit l'être. De même dans le scénario inverse. Si le parent d'un enfant se soucie et s'occupe plus d'un enfant d'une autre famille que son propre enfant, l'enfant de ce parent peut légitimement être jaloux et doit l'être. Si vous accomplissez un exploit sans l'aide de quiconque et que quelqu'un d'autre s'approprie le mérite de votre travail, vous pouvez légitimement être jaloux et vous devez l'être. Quel est le dénominateur commun dans tous ces exemples humains? C'est essentiellement que ce qui leur est légitimement et exclusivement dû ne leur est pas donné. La fidélité dans le cadre du mariage, l'amour parental dans le cadre familial et le juste mérite dans le cadre du travail. Humainement, ce qui est plus difficile, par contre, c'est de ne pas exprimer cette jalousie légitime de manière illégitime, c'est-à-dire de manière pécheresse, en réagissant avec un esprit de vengeance. C'est là que nous devons faire attention. Qu'en est-il donc de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie qu'il soit un Dieu jaloux? Pourquoi serait-il jaloux? Regardons ce que Dieu lui-même explique. Au chapitre précédent, les 10 commandements, Exode 19, 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » En Exode 34, 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Dans Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange ou mon honneur, selon votre version, à des images taillées ou aux idoles. » Dans Ésaïe 48, 18, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » L'Éternel est le Créateur. Toute la terre est à lui. Donc toute la gloire aussi est à lui. C'est aussi simple que ça. Toute créature est endettée envers l'Éternel pour leur existence même. Donc toute créature lui doit gloire, honneur et louange. Et de ne pas les lui donner signifie de nier à Dieu ce qui lui revient de droit. Et de les donner à quelqu'un d'autre ou à une autre chose. Aussi bonnes que nos intentions puissent être ou eurent été celles des Israélites qui voulaient représenter l'Éternel, ce que l'homme imagine dans sa pensée ou façonne de ses mains n'est pas, ne sera pas et ne pourra jamais être l'Éternel. Si l'Éternel donnait ou partageait avec un autre sa gloire, il se renierait lui-même. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas mentir, ça va à l'encontre de sa nature, de son caractère. Il en est simplement incapable. Sa jalousie est sainte, car il est saint, saint, saint. L'Éternel est zélé pour sa gloire, et il est le seul maître de cérémonie. Il est le seul qui peut décider des conditions selon lesquelles sa créature peut s'approcher de lui pour l'adorer et le servir. Car c'est lui qui initie, par sa grâce et sa miséricorde, la révélation, la relation plutôt, avec sa créature par alliance. Parlant de miséricorde, je ne sais pas si j'ai réussi à piquer votre curiosité au début du message lorsque j'ai mentionné le constat du déséquilibre marqué entre la sanction négative et la sanction positive. On peut même dire franchement que c'est une extrême inégalité. 3 et 4 générations pour la punition et 1000 générations pour la miséricorde. Citron, vous ne trouvez pas ça intriguant? Je suis absolument convaincu que par cette extrême asymétrie, Dieu tenait ultimement à révéler à son peuple la richesse de sa miséricorde. Une miséricorde qui est d'une profondeur impénétrable. Une miséricorde qui est humainement contre-intuitive. Une miséricorde qui est singulièrement divine. Essayons de mieux comprendre les sanctions prononcées par Dieu. D'abord, le zèle de l'Éternel pour sa gloire, qui fait partie de son caractère, d'où la raison pour laquelle il va même jusqu'à dire qu'il porte le nom de jaloux, ce qui signifie qu'il ne faillira jamais à défendre sa gloire. Ce zèle qui le définit requiert nécessairement qu'il exerce un jugement contre ceux qui lui volent sa gloire. Qui dit jugement ? Dit justice de Dieu, colère de Dieu. Donc, il punit l'iniquité de ceux qui le haïssent jusqu'à la 3e et 4e génération. Qui sont ceux qui haïssent Dieu ? Selon Jésus, il s'agit de ceux qui désobéissent au commandement de Dieu. Mais attention, Dieu est juste. Donc, il ne punit pas les enfants pour les péchés de leurs pères, ni les pères pour les péchés de leurs enfants, mais chacun pour leurs propres péchés, nous dit Ézéchiel. Est-ce que nous avons ici une contradiction ? Absolument pas. Cette sanction négative quant à la justice de Dieu exprime un principe général selon lequel les enfants, les petits-enfants et les petits-petits-enfants ont typiquement tendance à reproduire, à s'affermir, à se perfectionner dans l'exercice du mal et de la désobéissance qui étaient pratiqués par leurs parents. Pour cette raison, lorsque le moment lui semble bon, car nous l'avons lu dans la convocation, le psaume 115, « Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. » L'Éternel punit la troisième et quatrième génération pour leurs propres péchés, mais qui sont tout de même un mauvais héritage spirituel qui leur a été légué par leurs ancêtres. Nous devons en être conscients. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous prévient l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est en contraste à cette idée que nos cœurs devraient être bercés et réconfortés par la deuxième sanction, la sanction positive. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À travers la frayeur des tonnerres, du son de la trompette et des flammes de la montagne fumante dont les Israélites étaient témoins, dans cette sanction positive, ils devaient entrevoir le chesed de l'Éternel, son amour loyal et infaillible, manifesté purement par grâce de sa part. Pourquoi ? Parce que l'Éternel n'est pas simplement le seul maître de cérémonie qui est juge, législateur et roi, mais l'Éternel Dieu est aussi amour et il sauve. Lisez Ésaïe 33, verset 22. Selon moi, s'il y a un endroit dans les 10 commandements où je perçois le plus explicitement le cœur de l'Évangile, c'est dans la sanction positive du 2e commandement. À mes yeux, cette sanction est une forme voilée du mystère de l'Évangile qui peut seulement être entièrement illuminée par le Nouveau Testament et réellement appréciée à la lumière de l'œuvre du Christ Jésus à la croix. L'apôtre Paul nous rappelle à plus d'une reprise que toute la révélation a été écrite pour notre instruction. Il nous enseigne que la loi de Moïse était un pédagogue, un tuteur pour nous amener à Christ. Aussi glorieuse, merveilleuse et abondante que soit la miséricorde de l'Éternel manifestée jusqu'en 1000 générations, il s'agit de la récompense d'un amour et d'une obéissance parfaite envers Dieu, ce qui laisse tout homme sous le poids de la condamnation, le poids de la mort. D'obtenir et de connaître la loi ne permet pas de la garder. Tout comme chaque Israélite auquel Dieu a parlé personnellement et individuellement à la deuxième personne du singulier dans les 10 commandements, Dieu parle à tout homme, femme ou enfant qui entend le son de ma voix et qui comprend ce que je dis. Dieu exige une obéissance totale, absolue et parfaite à sa loi. Soyons honnêtes, aucun de nous ne peut y arriver. Et depuis la chute, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Même si nous n'avions jamais commis d'iniquité, notre nature, notre essence même est déjà entachée par le péché en Adam. Mais voici la bonne nouvelle. Par Moïse, la loi a été donnée, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En ce que Jésus, qui a créé toute chose avec Dieu le Père, est personnellement entré dans sa création. En prenant une nature humaine sans péché, il s'est incarné, a parfaitement aimé le Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme lui-même. Il a parfaitement gardé tous les commandements de la loi et a pris à la croix la condamnation qui pesait sur tous ceux qui avaient cru, qui croyait et qui croirait à l'avenir en lui. Il est ressuscité le 3e jour, triomphant contre la domination, la puissance du péché, le diable et la mort. Il est ensuite monté et a été couronné par Dieu le Père pour régner éternellement et a envoyé son esprit pour transformer nos cœurs, graver la loi de Dieu dans nos cœurs et nous aider à grandir en amour et en obéissance à cette loi tout au long de notre pèlerinage terrestre, et à enseigner cette loi après la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle, faisant toujours plus de disciples pour Jésus-Christ. La grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ nous offrent une volonté renouvelée, la puissance et la capacité d'obéir à la voix de l'Éternel. Ce que la loi donnée par Moïse ne pouvait pas offrir aux Israélites. En Christ Jésus, les exigences de la justice de Dieu et la paix pour l'homme avec Dieu se sont embrassées. En Christ Jésus, nous avons la vie en abondance à laquelle nous goûtons ici-bas en tant que nouvelle création lorsque nous sommes régénérés et dont nous profiterons pour l'éternité lorsque les cieux et la terre seront unifiés. Nous pouvons aimer Dieu car il nous a aimés le premier. Le mérite de l'éternel Jésus-Christ peut être mis au compte de tous ceux qui reconnaissent leurs besoins, leur misère, leurs péchés et leur totale incapacité, qui s'humilie devant Dieu par la repentance, demandant pardon et se confiant avec une foi sincère en Christ Jésus pour leur salut. L'Éternel n'est pas uniquement juge, législateur et roi, mais l'Éternel, Dieu, est aussi amour et il sauve. Il sauve parfaitement en Jésus-Christ tous ceux qui se repentent, croient et obéissent. Et que tous ceux qui rejettent le Seigneur et médiateur Jésus-Christ tremblent en appréhension du jugement éternel qu'exige le zèle de l'Éternel, le seul maître de cérémonie, et ont décidé que nul ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus-Christ qui est un avec le Père. C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le recède de l'Éternel. Quel réconfort à nos cœurs. Quelle assurance. Amen.